L'économie en question, bonsoir, nous parlons ce soir d'emploi. Emploi sûr, emploi flexible, avons-nous le choix ? Trois invités, tous trois économistes, Bernard Gazier, professeur à Paris 1, Robert Boyer, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, pardon, et également au CEPREMAP qui publie ces petits ouvrages dont nous servons beaucoup ces temps-ci. Ça dépend de l'école normale supérieure, Michel Husson, à l'Institut de recherche économique et sociale. Bienvenue à tous les trois. Car sécurité, flexibilité dans le travail sont au cœur des débats sur l'emploi et sur la croissance, sur la bonne santé, en gros, des économies dans tous les pays développés, singulièrement tous les pays européens en tout cas. De nombreuses analyses, des rapports officiels préconisent un assouplissement du marché du travail, droit de licenciement, création de contrats uniques, plus ou moins bien accueillis. On se souvient bien entendu du CPE en France. Et ces analyses font le lien effectivement entre une certaine rigidité du marché du travail et le chômage et ne cessent de recommander au gouvernement européen de réformer s'ils veulent améliorer leur situation de l'emploi. Question, la flexibilité est-elle donc une arme efficace contre le chômage ? À l'inverse, la sécurité de l'emploi n'entrave-t-elle pas la création de nouveaux emplois ? Et la flexicurité, thème barbare s'il en est, mais très utilisé pourtant, peut-elle réconcilier les deux ? Nous sortirons bien entendu de France pour voir ce que font les autres. On ira certainement du côté de l'Europe du Nord et notamment singulièrement du Danemark, très souvent cité, le Danemark nouveau modèle. Ce sera certainement riche d'enseignements. On y va dans un instant. Auparavant, puis-je vous demander à tous les trois quel autre élément de l'actualité économique, sociale, voire politique, si vous le souhaitez, vous voulez commenter, qui veut ouvrir le feu, c'est Bernard Gazier.
Oui, bon, je crois que c'est difficile de ne pas évoquer tout d'abord, bien sûr, le raz-de-marée qui commence autour de Ségolène Royal, mais pour dire que finalement, nous ne pourrons pas vraiment discuter de ce qu'elle pense, parce que dans le fond, nous ne savons pas vraiment. Et je retiendrai simplement une chose, c'est une préoccupation évidente à laquelle moi je suis très sensible, qui est celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Au-delà de cela, il y a des éléments provocateurs, des éléments qui sont pris dans des corps doctrinaires extraordinairement différents, et donc je crois qu'il est, prématuré de discuter.
Oui. Pensez-vous que ce serait une bonne idée, ce que nous proposons de faire, de demander aux experts que vous êtes, économistes, vous êtes nombreux, de commenter les programmes économiques des candidats pour vérifier leur validité, leur pertinence, éventuellement certains chiffres avancés? Est-ce qu'on le fait assez dans le débat public? C'est une question pour tous les trois, je ne sais pas qui souhaite y réagir. Robert Boyer
a déjà publié,
vient de proposer, effectivement.
De droite, ouais. De gauche, etc. Donc ça peut se faire, mais il faut être tout à fait modeste, parce que c'est marqué par une relative incertitude de l'effet des mesures, en plus encore de la conjonction. Et troisième difficulté, il y a un monde entre l'unanimité qui porte un homme politique à dire quelque chose et la rationalité du raisonnement économique qui conduit. Donc sous ces modalités, étant donné que les décisions sont finalement en politique économique de la politique, donc il faut être assez modeste.
Mais dans certains cas,
on peut imaginer que les mesures ne tiendront pas les promesses attendues. Mais c'est pas le cas de toutes ces mesures.
On s'essaiera sans doute à l'exercice. Michel Husson, qu'en pensez-vous?
Il y a un organisme qui dépend de l'Institut de l'entreprise qui s'est amusé à chiffrer les programmes, enfin les mesures annoncées par Sarkozy d'un côté et par Ségolène Royal de l'autre. Et ça m'a fait réfléchir sur un recul par rapport à des années antérieures, c'est-à-dire la non-disponibilité dans le débat public de variantes, d'exercices, de projections, de politique économique, qui permet de les tester, de les calibrer, et qui relevait autrefois, disons, du service public, de l'INSEE, etc. Et je pense que il y a effectivement eu un recul là-dessus. C'est-à-dire que on discrédite ou on encense des programmes avec de moins en moins de données factuelles, disons, permettant de corroborer ces pronostics ou ces appréciations.
Oui, l'analyse de moins en moins forte. Autre actualité, là, Michel Husson, gardez la parole. Vous aviez choisi de commenter autre chose.
Ben, moi, j'ai choisi de parler du rapport du Cercle là, qui vient de sortir, parce qu'il est sorti il y a très peu de temps. Donc c'est un rapport un peu synthétique.
Alors le CERC a changé de nom, qui s'appelle aujourd'hui.
Non, il s'appelle
de nouveau. Centre d'études des revenus et des coûts, c'est ça.
Il s'appelle de nouveau le CERC. et c'est un rapport.
Mais il y a un autre CERC, on y reviendra.
un synthétique qui s'appelle la France en transition sur la période 93-2005 et qui est une espèce de panorama de l'évolution au niveau social. Et moi, il y a un point qui m'a beaucoup frappé et qui a un rapport avec le sujet de ce soir, c'est que dans l'évolution du pouvoir d'achat, une bonne partie, disons, du ralentissement de la progression du pouvoir d'achat, voire de sa dégradation dans certaines catégories sociales, est très étroitement liée au temps de travail, c'est-à-dire aux phases de précarité, au temps partiel, etc. Donc il y a vraiment un lien entre la montée de la pauvreté et la structuration du marché du travail, quoi. Donc c'est un des résultats importants de ce rapport.
Là. Oui, j'en profite pour dire que nous reviendrons aussi sur ce rapport du CERC, donc effectivement, ok. Qui avait été supprimé et qui a été rétabli, c'est pour ça que je vous ai coupé tout à l'heure. Et nous y reviendrons, nous sera le 4 décembre, et sera effectivement un volet qui fera le pendant de ce que nous dirons ce soir. On parlera davantage de pouvoir d'achat et comment on le définit. Vous aviez autre chose à nous dire, Bernard Gazier?
Oui, tout à fait. Moi, je voudrais évoquer la mémoire de Milton Friedman. Alors, Milton Friedman est un grand économiste agressivement libéral. Il est mort à 94 ans. On peut dire deux choses de lui. D'une part, il a été au début, mais seulement au début, de la réaction anti-keynésienne. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où le keynésianisme a dominé la pensée économique, c'était dans les années 50. Et puis, dès la fin des années 50, l'influence de Milton Friedman a beaucoup grandi. Mais il n'est que le début. Il a proposé un certain nombre d'idées tout en gardant beaucoup de concepts de Keynes. Et plus tard, en fait, d'autres économistes ont été bien plus radicaux et ont rejeté, si je puis dire, toute la boutique keynésienne. Alors ça, c'est une première chose qu'on peut dire. Puis la deuxième, c'est que Milton Friedman est associé des gens pas très sympathiques, qui étaient les Chicago Boys, des gens qui ont travaillé avec Pinochet au Chili et qui ont fait un cocktail entre, d'une part, donc évidemment l'activité du dictateur, et puis des mesures extrêmement d'inspiration extrêmement libérale. Alors ouais. Ça, je dirais, c'est ce qui a marqué son action. Sinon, je voudrais juste souligner deux éléments. D'une part, il y avait chez Milton Friedman une hostilité extrêmement curieuse à toute intervention publique, notamment quand il est inspiré par des intellectuels. Alors voilà, un intellectuel de haut de gamme qui se méfie des intellectuels, c'est très typique d'un certain positionnement américain. Sinon, je voudrais lui reconnaître un talent immense de vulgarisateur. Il était capable d'écrire en 10 lignes des choses extrêmement simples dans les débats publics, et je pense qu'on a un peu perdu ce talent.
Des choses extrêmement simples qui traduisaient des choses extrêmement compliquées, qui normalement étaient réservées aux experts, qui permettaient de le faire entendre de tout un chacun. Très sévère contre Keynes, on va peut-être un tout petit peu plus décrire le travail de Friedman et son influence extraordinaire.
J'ai des collègues keynésiens qui pensent qu'ils ont perdu la bataille parce que Friedman était un débatteur extraordinaire. Non, il a profité du désarroi des keynésiens qui n'avaient pas développé suffisamment la théorie après Keynes, macroéconomique, et du fait de l'accélération de l'inflation à la fin des Trente Glorieuses. Et il s'est immiscé dans ce débat pour dire, regardez, j'ai la solution. L'inflation, toujours et partout, est monétaire. Mais, du coup, il a été en syntonie avec l'évolution des politiques monétaires. Mais l'histoire s'est vengée parce que, depuis les années 80, nous devons être dans une inflation dithyrambique. Parce que pour lui, tout se traduisait par l'inflation du prix des produits. Or, que s'est-il passé? C'est tout simplement, vous avez des bulles spéculatives. Et donc, le leg des politiques des banquiers conservateurs, c'est-à-dire défendre la stabilité du prix à la consommation, a été des taux d'intérêt très bas, qui stimulent des bulles spéculatives immobilières et de la bourse, au point que l'inflation maintenant, bon, il faudrait calculer un nouvel indice qui incorpore ces biens nouveaux, et donc en quelque sorte les innovations financières ont rattrapé Friedman, au point qu'il était de moins en moins cité, non seulement parce qu'il avait 94 ans, mais tout simplement, il n'était plus au cœur de l'actualité. Les innovations financières, c'est plus dominant la finance qui l'a emporté.
Oui, mais il n'a jamais changé d'avis. Alors on rappelle qu'il a considérablement influencé, parce qu'on les cite toujours, mais ça donne une très bonne idée. Vous avez bien fait de parler des Chicago Boys et puis également de Pinochet, puisqu'il a beaucoup influencé également des politiques au Chili, sur l'ensemble du continent latino-américain. Oui, tout à fait. Donc il est beaucoup intervenu sur les gouvernements également en Amérique latine. En tout cas, il a fait une pression très forte. Et il a beaucoup inspiré Ronald Reagan et Margaret Thatcher, pour ne citer que. Donc quand on dit qu'il a vraiment une influence considérable, c'est indéniable. Pour lui, c'était vraiment le lien étroit, la monnaie en circulation et l'inflation, et tout devait passer par les marchés. Tout était résolu à condition d'éviter l'inflation. Enfin, c'est quelque chose qu'il a défendu, et jusqu'au bout, vous dites qu'il était moins écouté à la fin, mais il n'est jamais revenu sur cela, ni sur la haine, enfin la haine, je vais un peu vite, de l'État. Voilà, oui, la haine de l'État, je crois qu'on peut le dire comme ça. Hein.
Son grand travail, c'est l'histoire monétaire des États-Unis, mais en longue période, et si on le lit attentivement, sa théorie capote dans les années 30, dans des périodes bien particulières. Donc c'est assez intéressant qu'il y a le chercheur analytique sur la consommation, sur l'histoire monétaire, qui a des propos assez mesurés, et puis il y a le débatteur, qui lui a poussé très très loin le bouchon.
Michel Husson, un mot sur Milton Friedman.
Il a été l'inventeur d'autre chose,
c'est le prix Nobel, ce qu'on a dit, oui.
Oui, le taux de chômage naturel, enfin, ou avec Phelps, on sait pas dans quel ordre ça vient, mais c'est souvent attribué cette expression-là, et je pense qu'elle résume vraiment la pensée ultralibérale, c'est une espèce de fatalisme où l'économie est une chose et qui relève de phénomènes naturels. Il y a un taux de chômage, disons, quasiment météorologique. Et c'est vraiment un discours de grand fatalisme et de soumission à l'économie, je pense. Je vais juste signaler, dans Libération ce matin, il y avait un petit billet de Piketty qui terminait par une formule assez drôle, en disant qu'au moins Milton Friedman était un économiste sérieux et compétent, et que c'est pas le cas des ultralibéraux en France.
Il disait, oui, il regrettait que les ultralibéraux en France ne soient pas plus influents à écouter, et que finalement...
Non, il regrettait leur incompétence.
Oui, c'est ça, et qui du coup donnait, de l'autre côté donnait quelque chose de très consensuel finalement, oui, je l'ai lu aussi de Thomas Piketty. Donc Milton Friedman, défenseur inlassable de l'ouverture des marchés, et pourfendeur de la dépense publique, quelle qu'elle soit, et qui était toujours considérée comme du gaspillage, et surtout comme étant très inefficace. Merci quand même à Milton Friedman, mort à 94 ans. Robert Boyer, une autre actualité.
Oui, moi j'aurais parlé de l'adoption par le Parlement européen de la directive Bolkestein rénovée. Pourquoi si c'est important? Parce que parmi les manœuvres de flexibilisation des marchés du travail nationaux, celle que un salarié ou une entreprise puisse être soumis à un contrat de travail de son pays d'origine était un effet dévastateur, puisque ça décomposait l'unité sociale des salariés. Et la chose qui est assez intéressante, c'est que à travers les protestations les non au référendum, l'opposition des députés qui sont retournés vers la base, on est allé vers une idée plus intéressante. Malgré tout, reste un vrai problème. Pourquoi cette directive dans les services? Parce que d'abord, les services représentent 70% de l'emploi, et que ils n'ont pas été libéralisés, mais pour des raisons très profondes, puisque le service est lié, le produit est lié à la prestation du service individuel. Donc la tentation était bien sûr d'appliquer les mêmes principes. Or, ça violait complètement le principe de subsidiarité, qui veut que les politiques d'emploi et les politiques sociales soient nationales. Et donc on voit bien, et alors pourquoi je pointe ça, c'est que le grand absent sans doute de la campagne électorale qui vient, c'est personne ne va parler de l'Europe. Or c'est bien là, quel est le principe qui pourrait arrêter le fait que le principe de concurrence va pénétrer l'ensemble des éléments de la vie sociale, les dépenses de l'État, l'éducation, la santé. Et je trouve que cette directive nous montre un coup d'arrêt, mais ne nous donne pas un principe pour reconstruire et répondre aux angoisses, en particulier des salariés, des opinions publiques.
Oui, Michel Husson, sur ce point encore.
C'est-à-dire, ça a été retoilété, mais par exemple, pour prendre sur tous les amendements qui ont été proposés en décidant d'inclure clairement le principe du pays d'accueil, qui est symétrie du principe, ont été rejetés. Donc c'est quand même une version où le principe du pays d'origine n'est plus mentionné, mais c'est une version qui continue dans la même lignée que sa version un peu dure précédente.
Donc on y reviendra d'ailleurs certainement sur ces aspects-là. On passe à notre dossier qui n'est pas très éloigné. Il sera, je l'espère, question de l'Europe. Sûrement même, puisque lorsque l'on parle de flexibilité, de sécurité et de flexicurité, donc troisième terme très utilisé sur lequel nous allons revenir, on fait forcément des comparaisons entre différentes économies françaises, et ne serait-ce que pour rappeler les chiffres très récents. Lundi dernier, dans cette émission, nous commentions avec mes invités la mauvaise surprise que constituaient les chiffres de la croissance du produit intérieur brut en France au troisième trimestre. C'est vrai que c'était une déception. Deuxième mauvaise surprise, dès le lendemain matin, non seulement la France était en croissance zéro, donc complètement atone, mais elle était seule dans cette situation au sein de la zone euro, ce qui ne laisse pas d'inquiéter, à moins que vous ne jugiez l'un ou l'autre que c'est un accident de parcours. Mais la France est restée vraiment en tête, en tête des perdants d'un magasier.
Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part quelque chose qu'on peut appeler, selon le terme habituel, un trou d'air. Alors, c'était très fort au deuxième semestre, c'est zéro au troisième, au deuxième trimestre, et c'est zéro au troisième trimestre. Bon, l'un dans l'autre. En revanche, il y a d'autres indicateurs qui sont bien plus inquiétants. Hein. Effectivement, le décrochage de la France en termes d'innovation, en termes d'exportation, la difficulté à financer l'industrie, enfin l'absence de beaucoup de projets nouveaux dans l'industrie. Là, il y a une sorte d'anémie qui se dessine, et ça, c'est bien plus grave.
Oui, anémie notamment d'autant plus préoccupante qu'en face, l'Allemagne redécolle. Avec les exportations, on le sait, très très puissantes, mais surtout une demande, une consommation intérieure qui donne des indications très positives.
Oui, Robert Boyer. D'autant plus en passant que le rythme d'emploi est quand même lié d'une certaine façon au rythme
de
croissance.
C'est pour ça que je commence
par là. Et cette croissance, elle est liée au rythme d'investissement, au l'optimisme ou non des consommateurs, à la compétitivité de l'économie. Et du coup, ça nous introduit dans un débat. Croire que par des simples arrangements sur le marché du travail, on va regagner toutes les marges perdues dans le régime macroéconomique de croissance, c'est un peu une illusion. Donc ça nous illustre bien qu'il faut un potentiel de croissance. Et c'est là-dessus qu'on peut amender le droit, mais pas vice-versa, compenser par des ajustements drastiques du droit, du travail, ce qui vient de la substance même, de la difficulté et de la valeur ajoutée. Il semblerait que les entreprises sont aussi gênées par beaucoup d'autres choses que le caractère contraint du droit du travail.
Oui, c'est bien sûr pour ça que je faisais le lien d'entrée avec l'état de la croissance du produit intérieur brut. C'est que le taux d'emploi en France aussi est un des plus faibles de l'Union européenne. C'est un point à connaître. Je ne parle pas du taux de chômage, je parle du taux d'emploi. Michel Husson. Donc le lien est évident, je vous en prie. Alors je le mentionne, c'est tout, mais ajoutez ce que vous voudrez.
Oui, c'est bien sûr une dimension importante. Mais quoi qu'il ne soit pas tellement différent, par exemple, de l'Allemagne. Enfin, il est un peu inférieur, mais pas fondamentalement. Non, je voulais dire quelque chose sur. Bien, je dispose pas de boule de cristal pour prédire l'avenir, mais c'est à quel point dans l'analyse de la conjoncture. Le couple franco-allemand joue un rôle tout à fait clé maintenant. Hein. Et par exemple, un des éléments des prévisions pour l'année prochaine, bon, avec ce petit zigzag là qui est probablement qu'un zigzag que les conjoncturistes n'ont pas vu venir, mais enfin, on peut pas raisonner trimestre par trimestre. Donc, à triompher 1,2% et puis dire qu'on est en pleine dégénérescence quand on est à 0%. Quoi. Mais en revanche, ce qui est étonnant, c'est le poids que prennent des décisions, par exemple l'augmentation plutôt de TVA qui doit intervenir en Allemagne l'année prochaine, sur les projections de la France. On voit bien le côté extrêmement intégré. Et la difficulté à raisonner uniquement en termes franco-français dans ce contexte européen très très intégré.
Bien, alors revenons donc sur la situation du marché du travail. Donc je l'ai dit, tous les pays européens cherchent des solutions pour tenter d'assouplir le marché du travail. Alors peut-être est-ce qu'on peut commencer par distinguer différentes tendances. Il y a les pays, l'Espagne peut-être en tête, hein, qui font des expériences très très directes de contrats spécifiques des 97, renouvelés d'ailleurs en 2001. Nous avons eu l'occasion d'en parler ici il y a très peu de temps. Donc des contrats de promotion de l'emploi pour toutes les populations en chômage et dans des conditions difficiles, mais ce qui évidemment donne l'Espagne championne des contrats temporaires jusqu'à 25 ou 30 emplois parfois lorsqu'on est à peine âgé de 30 ou 35 ans. Il y a des pays qui ont des mesures qui combinent emploi et formation. On peut citer l'Autriche dont Bernard Gazier va nous parler. On peut citer l'Allemagne d'ailleurs, le Danemark dont il sera beaucoup question aussi, et qui font également un suivi de chômeurs, surtout de jeunes chômeurs qui accompagneraient le retour à l'emploi. La Grande-Bretagne s'y est essayée. Et puis il y a ceux qui vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils associent peut-être les deux, suivi de retour à l'emploi et accompagnement du chômage de manière très vigilante. Et ça, ce serait davantage le cas du Danemark. De toutes ces approches, est-ce que l'on peut donc effectivement diviser comme cela les pays européens, l'Europe du Sud, donc plutôt championne des emplois temporaires plus au nord, on associe davantage sortie de CDI, licenciement accompagné.
Je crois que le seul critère juridique concernant l'emploi ne suffit pas à décrire la situation. Il me semble que c'est un critère parmi des tas d'autres. Par exemple, on sait qu'en France, à l'heure actuelle, il y a en fait 17 ou 18 contrats. Il y a donc en fait toute une série de marchepieds qui sont censés rendre possible l'accès au bus de l'emploi stable, si je puis dire. Et les marchepieds sont de plus en plus bas, et on se demande même s'ils ne sont pas en train de racler la route. Hein. Et cette logique-là, en fait, purement juridique, je crois, ne rend pas compte de l'essentiel de ce qui se passe. Parce que les problèmes que nous rencontrons sont des problèmes d'adaptation vertueuse. C'est-à-dire, il s'agit de lancer un cercle vertueux dans lequel un certain type d'innovation, un certain type d'entreprise, un certain type de main-d'œuvre fonctionnent en quelque sorte ensemble. Alors, ce problème-là, on peut le régler de plusieurs manières. Il y a la manière vers laquelle la France est parfois aspirée, se dire, écoutez, les gens sont pas très compétitifs, les entreprises sont pas très dynamiques, eh bien, on va baisser le coût. On va rendre ça moins cher, on va rendre ça moins contraignant, et on espère que ça va repartir. Alors, ça, c'est un type d'espoir qui me paraît caractéristique de la situation actuelle. Et ensuite, alors, on va trouver un déploiement d'autres trajectoires, plus professionnalisées, plus ambitieuses, plus toniques, mieux contrôlées sur le plan macroéconomique, sur le plan de l'innovation, sur le plan des mobilités. Et là, on va trouver l'éventail des différents pays européens.
Oui, mais la vraie question à poser, c'est est-ce que, oui ou non, il y a consensus sur le fait que la rigidité du marché du travail est un frein majeur? Pas forcément.
Il n'y en a aucun.
Non, on est bien d'accord. Pas forcément.
Je crois que là, il faut faire parler Michel Hussain.
Oui, je connais bien la position de Michel Hussain. Mais on est d'accord que beaucoup de rapports, j'ai évidemment cité, je ne l'ai pas cité d'ailleurs, mais parce que je faisais allusion, de l'OCDE, par exemple, ne cesse de recommander au gouvernement de le faire. Il y a beaucoup de, et on nous met aussi en avant les pays qui ont tenté cette lutte contre la rigidité du marché du travail. Ben, Michel Hussain n'est pas convaincu, bien sûr.
Non, parce que c'est un discours à deux temps. Dans les rapports, on dit, on voit pas beaucoup de liens entre la législation protectrice de l'emploi et de mauvais résultats en termes de chômage. Mais malgré tout, dans les préconisations, on trouve cette ligne absolument, cette voie absolument royale.
Quoi.
Donc il y a une vraie contradiction. Alors le discours glisse, on trouve mais depuis longtemps, par exemple, c'était la même chose il y a quelques années, il y avait un discours sur le salaire minimum qui empêchait d'ouvrir l'éventail, qui décourageait l'emploi au niveau des bas salaires. Faute de preuves, avec l'institution du salaire minimum au Royaume-Uni, l'OCDE a glissé sur une autre thématique. Quoi. Donc il y a un lien difficile à établir entre les rapports, les études et les recommandations.
Mm-hmm. Oui, Robert Boyer.
L'OCDE, c'est un des avant-derniers rapports sur l'emploi, a redécouvert la configuration originale scandinave, qui n'est pas exactement le workfare. Donc, parce que l'effet résistait, l'économétrie ne donnait pas les résultats attendus, et puis on s'est aperçu une configuration bizarre, qui était 50% de transferts publics, 80% de syndicalisme, forte indemnisation des moins qualifiés pendant un temps limité.
On parlait de l'Europe du Nord, hein.
Oui, de Danemark. Et néanmoins, oh, c'est bizarre, il n'y a plus que 5% de taux de chômage. Et là, l'OCDE a eu une toute petite inflexion, mais a immédiatement embrayé sur la formation. Alors que ce modèle est beaucoup plus complexe, et on va peut-être y revenir. Il associe beaucoup d'autres éléments que la formation. Et c'est vrai que, par contre, je crois que mezzo voce, il y a eu une inflexion de l'OCDE qui est beaucoup moins, les job studies, etc., n'ont pas marché. Alors, moi, je voudrais rajouter, vous avez oublié un grand pays tout le monde regarde, c'est le workfare en britannique, avec une performance quand même d'emploi de chauffeur remarquable, eux-mêmes regardant le workfare californien aux États-Unis. Donc, c'est quand même beaucoup. Moi, je dirais que ce modèle est quand même très précis. Et je dirais que moi j'en verrais trois. Les grands pays comme France, Italie, Allemagne, dans lesquels les salariés sont relativement faibles dans l'entreprise, au niveau politique, un certain pouvoir. Et alors, on veut faire baisser le coût du travail, mais à travers des subventions en exemptant de charges. Donc c'est une sorte de partie de billard, et ça se retrouve dans le budget. Puis on a eu Mrs. Thatcher poursuivie par Monsieur Blair qui a dit, ben non, il faut durcir la nécessité pour les chômeurs de trouver un emploi, quitte à étant très restrictif sur les indemnités de chômage, en les réduisant et en obligeant chacun de se prendre en main avec des opérations de responsabilisation. Et puis il y a les modèles scandinaves qui ont essayé de dire, pour autant, il ne faut pas former de pauvres, alors que aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, on forme des working poor, des pauvres qui travaillent. Par exemple, Walmart étant un grand spécialiste de ce phénomène. Et donc, ces pays ont dit, du compromis social, on ne peut pas se permettre de ça. Soyons généreux à l'humanité, et il a fallu trouver d'autres politiques d'emploi. Donc, et c'est cette alchimie complexe qui définit un autre modèle appelé l'État social. Donc, moi, je dirais, il y a trois modèles. Par la puissance publique qui subventionne, on ne touche pas les éléments. Faire sentir toute la dureté du marché, que les pauvres trouvent un travail. Et puis, on a essayons de rendre compatible l'ajustement des firmes avec le maintien d'un minimum de solidarité, voilà. Et évitons que la pauvreté soit la conséquence nécessaire de l'ajustement économique. Et donc, moi, je vais trois modèles très, très, très contrastés.
Oui, Bernard Gazier.
Oui, je vais compléter, parce que, voilà, l'OCDE a découvert, effectivement, je dirais, le début de la sagesse, en quelque sorte. Mais c'est que le début! Parce que finalement, le débat dans lequel ils souhaitent enfermer la discussion, ce serait l'idée selon laquelle il y a d'une part des petits pays hyper solidaires qui font des choses très coûteuses et très difficiles à organiser, et ça, c'est pas pour tout le monde. Et puis d'un autre côté, l'ensemble des autres pays qui ont des difficultés, ou alors qui sont dans une logique libérale, donc baisser vos prix, flexibiliser, etc. Et leur jeu est un peu celui-là. Alors c'est pour ça que, à la fois, moi je suis extrêmement content de ce mouvement, paraît quand même, heureusement, un petit peu comme ce général qui ne se rendait jamais à rien sauf à l'évidence, pas même à l'évidence, pardon, ben voilà, on en est un peu là. Bon, ils se sont rendus à l'évidence, mais ils la réinterprètent de cette manière-là. Et là, je voudrais aller un petit peu plus loin, parce qu'il me semble que certains pays correspondent pas à ça. Alors, ils ont mis l'Autriche dans les pays nordiques. Allez, pour quiconque a un petit peu regardé.
Parlez-nous un peu de l'Autriche, parce que c'est vrai que le Danemark, on en parle souvent, qu'on commence tous
alors,
à savoir voilà. À peu près, mais on va
alors,
y revenir.
Moi, j'aime beaucoup le Danemark, mais c'est vrai que je fais partie de chercheurs qui finissent par dire, il y en a marre du Danemark, parce que, voilà, on parle toujours de ce pays comme étant une réussite, et en fait, c'est relu de manière libérale, parce que comme c'est un pays de PME, et qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes sur l'embauche et sur le licenciement, on va dire, mais voyez, licenciez, et puis faites comme au Danemark. Eh oui, mais attendez, il y a 80% de syndiqués, il y a un État qui est plus gros que l'État français proportionnellement, donc qui est tout à fait politiquement incorrect, si je puis dire, bon, et ça fonctionne.
Et on dit aussi, il n'y a que 5 millions d'habitants, ça a quelque chose à
voilà.
Voir ça.
Alors on dit que c'est tout petit, et ça c'est vrai que là, il y a des tas de choses à voir.
C'est plus facile quand c'est 5 au lieu de 60.
Sur l'avantage d'être petit, c'est vrai. Mm. Enfin, en même temps, il me semble qu'il y a 15 ou 20 ans, on aurait dit, vous rendez compte, ils sont tout petits, ils peuvent pas survivre, c'est impossible. Bon, tout d'un coup, ça se renverse. Small is beautiful. Moi, je pense qu'il y a des coordinations qu'on peut faire dans les petits pays. Et alors, de ce point de vue-là, l'Autriche est intéressante. Parce que l'Autriche, voilà un pays qui est pas flambard sur le plan macroéconomique, et qui lui aussi a un taux de chômage de 5%. Alors, il a un certain nombre d'institutions intéressantes, et là, on arrive vers quelque chose de plus riche, c'est-à-dire qu'on reprend les définitions de la flexicurité qui commence petit à petit à s'enrichir, et on en a des versions continentales. Alors, pour nous, c'est très intéressant, parce que ça se rapproche de la France. Ouais. Sinon, mais quand il y a le Danemark, on s'en sort pas.
Alors, juste d'un mot, où est la principale différence entre le Danemark, qui vous fatigue un petit peu, parce qu'on en parle trop, et l'Autriche?
Écoutez,
où est la valeur ajoutée de l'Autriche, sur laquelle nous pourrions peut-être davantage copier?
Comme on dit, continental. Et continental, en fait, ça veut pas simplement dire que géographiquement, il est dans l'Europe continentale. Ça veut dire, en fait, qu'il appartient à une configuration qui est le même genre de sécurité sociale que la nôtre. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est une variante d'un système bismarckien. C'est le système qu'on critique très souvent, et qui, là-bas, avec des tas d'institutions relativement spécifiques sur lesquelles on pourra revenir, mais qui fonctionne pas mal du tout. Alors, je voudrais aussi faire remarquer quand même une chose. C'est que l'Autriche ne craint pas le plombier polonais. Oui, mais voilà, elle a le plombier tchèque, le plombier slovaque, le plombier slovène et le plombier hongrois, qui sont tous à ses frontières. Eh ben, elle a un taux de chômage de 5%. Alors, c'est un pays qui doit avoir, qui se protège, c'est évident. C'est un petit pays, là aussi. Mais malgré tout, il me semble que ces deux éléments, protection et petite taille, sont peut-être une partie de l'explication de sa performance.
Et, voilà, un marché du travail, donc, plus souple que le nôtre.
Ils ont un marché du travail dans lequel les gens qui sont en CDD, la moitié sont en CDI l'année d'après. Et en France, la statistique correspondante, c'est 20%. 20% des Français en CDD passent en CDI l'année d'après. Et là-bas, 50%.
D'accord. Robert Boyer, pour revenir sur le Danemark, on nous dit aussi le Danemark plus petit pays, enfin toutes les réserves entre guillemets qu'a émise Bernard Gazier. On dit aussi taux de syndicalisation très fort, nous l'avons dit. Et puis également, ils ne sont pas dans la zone euro. Est-ce que ça compte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique monétaire contraignante. Et beaucoup d'économistes le disent.
Alors les Danois ont rejeté l'euro, etc. Mais de fait, ils suivent à peu près comme si c'était dans l'euro, mais ils gardent leur liberté absolue si besoin était de dévaluer. Donc c'est plutôt par une politique qui serait cette fois-ci plutôt plus macroéconomique, à savoir l'idée qui sera au cœur des modèles autrichiens ou scandinaves sera suivante: on n'a pas intérêt à long terme à défendre des emplois de faible valeur ajoutée, de faible salaire. On a plutôt intérêt à organiser vers des industries dans lesquelles la valeur ajoutée va être croissante. Et c'est à partir de cet élément que se trouvent deux choses. Un, permettre à des PME, puisqu'elles sont petites, elles ne peuvent pas imaginer un marché interne de l'emploi, on ne peut pas imaginer de progresser. Donc, il y a une nécessité de cet endroit. Mais, compensé complètement par un compromis capital-travail dans lequel les entreprises ont bien sûr essayé au Danemark comme ailleurs de suivre la voie du workfare. C'était tellement agréable, surtout avec tous les conseils de l'époque, de l'OCDE de l'époque. Le syndicalisme fort et très représenté au niveau de l'école l'a bloqué, et à mon avis la flexibilité c'est une invention inattendue du fait de deux logiques contradictoires. Les entrepreneurs voulaient s'ajuster, les gouvernements étaient tentés par le conservatisme et les salariés ont dit non. Et c'est de ce, et il a fallu 10 ans pour bricoler les politiques actives d'emploi. Par parenthèse, le résultat de certaines études économétriques, moi de la chose suivante, qui m'a beaucoup étonné. Certes, à long terme, tout le monde est plus formé, mais à court terme, il y a une dure discipline de marché. Au bout d'une année, on est obligé d'accéder à un emploi, et une partie d'efficacité vient du fait que ces stages sont souvent assez inefficaces s'ils ne sont pas dans une entreprise, et les individus préfèrent se dépêcher de trouver un emploi plutôt que d'aller faire un stage parking. Donc, vous voyez très bien la complexité de ce modèle, et il est en permanence sur le fil du rasoir parce qu'il suppose beaucoup de transferts. Et ce n'est que très récemment que la part de tous ceux qui sont soutenus par l'état du bien-être, hein, qui montait jusqu'à 25 ou 30%, a décliné par le succès du modèle. Donc, pendant très longtemps, on a investi en retirant du marché du travail. Donc, vous voyez, la fragilité est au moment où on l'admire.
Oui, avec un état très généreux.
Et un état très généreux. Et au moment où on l'admire, les acteurs voient toute une série de problèmes monter, ne serait-ce que le problème de l'immigration. On veut déconnecter des droits des immigrés. Et puis, il y a un gouvernement
et de vieillissement. On va y revenir aux difficultés, voilà, si vous le voulez bien. D'accord. Restons pour l'instant sur ce modèle supposé idéal que nous propose le Danemark.
Mon argument, il faut généraliser. On peut trouver, excusez-moi le mot pédant, un équivalent fonctionnel dans beaucoup d'autres États qui réussissent. Et du coup, la tâche pour nous, c'est de trouver l'équivalent fonctionnel dans nos institutions, d'un ajustement plutôt, en créant plus de valeur ajoutée, plutôt que d'en détruire.
Oui.
Et de faire payer par les autres entreprises cette destruction de valeur ajoutée.
Donc je résume, le Danemark, effectivement pays où il y a surtout des PME, hein, pas de très grandes entreprises comme nous en connaissons ailleurs, où l'État donc est très généreux, c'est-à-dire que les compensations sont très fortes, il y a un parcours individualisé suivi, une formation très très conséquente, et on retrouve très facilement, enfin on doit retrouver de l'emploi, et on est indemnisé assez, de façon assez importante. Question. Et il y a des syndicats très forts qui ont, comme vous l'avez dit, bloqué le rêve états-unien qui était d'abord présent.
Tout ce dispositif.
Et tout cela, on voit bien qu'en France, déjà les syndicats ne sont pas dans cette situation, même s'ils ont réussi à bloquer le CPE, ils sont loin de pouvoir s'opposer à un modèle aussi violent et ultralibéral que celui qui aurait pu être proposé. Nous n'y sommes pas, Michel Husson, mais tout de même.
J'ai encore une fois envie de revenir un petit peu en arrière, parce qu'en parlant de modèles, on suppose qu'il y a des bons modèles qui arrivent à créer de l'emploi et à faire baisser le chômage, et il y a les mauvais modèles vers lesquels il faut éviter d'aller. En fait, je pense que c'est oublier deux ou trois choses. Et si on prend le problème du Danemark, par exemple, c'est un pays qui, paradoxalement, avec un taux de croissance un peu supérieur à celui de la France, a créé deux fois moins d'emplois. Donc c'est pas un modèle qui crée beaucoup d'emplois. Au contraire, ils ont fait pas mal de productivité. Alors, le mystère, parce qu'il faut regarder ça, c'est pourquoi un pays qui crée moins d'emplois qu'un autre réussit à diviser par deux son taux de chômage alors qu'ils étaient à peu près à 10% il y a une dizaine d'années. C'est pas en créant plus d'emplois. Et je pense que là, il y a un point absolument fondamental. Tous ces discours sur les modèles où on vous dit il faut choisir ces modèles parce qu'ils font baisser le taux de chômage, donc sous-entendu, le marché du travail marche mieux et crée plus d'emplois, ne correspond pas à la réalité dans le cas du modèle danois. Si le taux de chômage a baissé, c'est parce qu'on a fait sortir de la population active des gens qui ailleurs seraient comptés comme chômeurs. Et la population active, dans le cas du Royaume-Uni et dans le cas du Danemark, décroche de la population en âge de travailler. Et donc, on fait passer.
Vous parlez de quelle catégorie de population?
Chaque pays invente. Les Pays-Bas, c'est les invalides. Il y a les congés de maladie de long terme. 2 millions de personnes sont en congé de maladie à long terme. 12% de la population active aux Pays-Bas sont sur le statut d'invalidité. Donc, ils sont plus nombreux, évidemment, que les chômeurs. Et aux Pays-Bas, il y a eu des systèmes de pré-retrait, de congés, etc., qui font que, quand on regarde statistiquement, on est dans un modèle qui ne crée pas plus d'emplois. Et donc, si le taux de chômage baisse, ce n'est pas par le fonctionnement du marché du travail.
Je vois Bernard Gazier,
oui,
pas trop d'accord.
Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que le taux d'activité au Danemark est un des plus élevés de l'OCDE. Hein. De ce point de vue-là,
il est élevé.
Il est extraordinairement élevé, et notamment pour les travailleurs vieillissants, ceux qui pourraient être en pré-retraite, hein, les travailleurs seniors. Donc en fait, c'est assez compliqué. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème qui est le traitement de l'invalidité dans le modèle nordique, qui est manifestement l'endroit où ils mettent tous les gens pas productifs, et ça fonctionne tout à fait comme les pré-retraites. Là-dessus, je suis d'accord. En revanche, je pense qu'en termes d'équilibrage d'ensemble de l'affaire, le taux d'activité danois est très élevé. C'est un des plus élevés.
Mais de l'OCDE. Il est élevé, mais il ne faut pas regarder le niveau. Ouais, on regarde les évolutions.
Mais moi, je regarde le niveau. C'est-à-dire qu'ils bossent tous, c'est tout. Enfin bon. Enfin, beaucoup, ils sont très très nombreux à bosser, voilà, c'est tout.
Non, mais ils étaient à 10% de chômage il y a 10 ans.
Et ils sont à 4%,
on
à
est
moins
passé
5.
À 4%. Oui, mais entre-temps, le taux d'activité n'a pas augmenté.
Oui, mais
ben moi je voudrais vous réconcilier. De 70 à 92, c'est une énorme montée de 10 à 28% de ceux qui sont retirés du marché du travail danois. Et là où tout le monde admire ce modèle, c'est à partir de 95 où on trouve à peu près un bon réglage dans lequel on arrive à faire retomber de 30 à 25% le taux de tous ceux qui sont retirés du marché du travail. Et c'est ce petit bout de trajectoire qui donne le modèle danois, après, alors qu'il est, il a été constitué tout au long de la période par un retrait du marché du marché du travail.
Oui, donc quand même, les résultats, c'est significatif.
Et les projections montrent qu'il faudra faire attention, parce qu'avec le vieillissement, etc., la montée de la pression fiscale, etc., il se peut très bien qu'il y ait des effets adverses du taux de fiscalité très élevé sur le territoire. Et donc, on s'aperçoit qu'on a tendance à extrapoler comme un modèle pérenne et complètement rationnel, planifié, quelque chose qui est le résultat d'un heureux pragmatisme et d'une conjonction, d'une conjoncture internationale relativement favorable. Et on l'a des symptômes, alors que les Danois eux-mêmes sont beaucoup plus inquiets sur la durabilité. Alors, dernier point, une anecdote, jamais un modèle n'a été invité par les autonomes. Ce sont des étrangers qui voient des performances auxquelles ils ne font de rien, qui disent, oh là là, ils ont la pierre philosophale, et si je peux décliner tous les modèles, c'est ma spécialité, japonais, suédois,
allemand,
etc., on y entend goutte, ils doivent avoir un secret, la conjoncture se retourne, on oublie le modèle. Jamais aucun japonais n'a parlé de modèle.
Vous voulez dire que les Danois sont surpris qu'on les cite constamment?
Ils sont très surpris qu'ils soient.
Mais ils reçoivent des visites de tous nos politiques.
Et d'où les airs que j'ai mis là, faites attention, on a beaucoup de problèmes sur le travail. Attendez, faites attention, on n'est pas un modèle.
Bernard Gazier.
Oui, moi je voudrais dire que, bon, les Danois, désormais, sont très contents. Ils disent, mais après tout, peut-être bien que c'est un modèle quand même. Enfin bon,
c'est là où commence comme
ça. Ça, c'est très drôle. Mais je voudrais rajouter une chose, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de l'Autriche. Bon, nous n'avons pas du tout l'intention, mon co-auteur et moi-même, de dire que l'Autriche est un modèle.
Je ne sais pas encore citer votre ouvrage.
Il y en a un petit peu marre, justement, des modèles un peu simplistes, etc. Je signale simplement que Peter Auer, mon co-auteur, est autrichien, et qu'au début, c'est moi qui ai proposé qu'on parle de l'Autriche. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai pas très envie. Tu sais, moi, je suis autrichien.
On en parle peu souvent.
Ça me gêne. Enfin, voilà. Donc, c'est pour dire que il y a eu tout un débat là-dessus. Merci. Et je pense qu'il y a une raison bien plus scientifique qui apparaît là, qui est qu'en fait, effectivement, il s'agit maintenant de trouver une mécanique beaucoup plus générale. Et à partir de là, d'essayer de voir des déclinaisons qui, en fait, varient énormément.
Oui, Peter Auer, je le précise aussi, qui est expert au Bureau international du travail. On va revenir sur cet ouvrage. Juste un point sur cette question de sécurité, flexibilité. Je relève une étude d'un économiste que vous connaissez très bien, surtout Robert Boyer, qui est Daniel Cohen, qui explique très bien comment en... combien, 30 ans, 40 ans, peut-être un petit peu plus, on a complètement inversé la tendance, c'est-à-dire qu'autrefois, lorsqu'on parlait de sécurité, elle était surtout pour les salariés qui avaient un emploi, et le risque, donc la flexibilité, comme on dit aujourd'hui, mais en tout cas le risque était du côté des chefs d'entreprise et des actionnaires. Il faut bien reconnaître que le monde d'aujourd'hui nous montre l'inverse, c'est-à-dire que l'actionnaire est à peu près sûr de continuer à bien vivre, le chef d'entreprise, bon, je caricature peut-être, mais il y a quand même toutes ces questions de revenus, d'inégalité de salaire croissante qui lui donne une sécurité importante. Et en face, c'est au contraire le salarié qui se retrouve en situation de parcours, on va dire, erratique d'une vie professionnelle. Robert Boyer.
Je ne suis pas en désaccord, il faudrait rendre à César ce qui est à César. Hein. c'est peut-être Michel Guetta et mes collègues qui ont pointé la révolution suivante.
Oui,
dans le droit romain du travail, le salarié est protégé des incertitudes durant la période du contrat. Avec la valeur actionnariale, c'est l'actionnaire qui doit avoir une rémunération forte et stable
et qui doit se sentir sûr.
Sûr. Et du coup, vous connaissez les licenciements boursiers, qu'ils aient un effet ou non, qui visent à donner un signal comme quoi on va bien défendre la valeur. Et donc, en quelque sorte, et ceci vient en gros dès le début des années 90. Et c'est vrai que si on étudie les transformations de la relation salariale, il y a deux grands moments. Lorsque les taux d'intérêt réels de négatifs qu'ils étaient dans la période de forte croissance deviennent positifs, qui poussent à la faillite les firmes et qui disent, écoutez, si vous n'acceptez pas de concession salariale, nous allons à la faillite. Et deuxième élément, c'est la valeur actionnariale qui s'impose comme force exogène aux firmes et qui oblige les salariés, alors, soit à accepter la flexibilité, soit à accepter des plans d'épargne d'entreprise, des participations, pour que eux-mêmes éventuellement gagnent des gains des cours boursiers. Et donc ça, c'est un grand, grand changement qui est arrivé et qui est conceptuellement très dévastateur pour la conception standard du droit du travail. Puisque, en quelque sorte, ça détruit une théorie standard du profit. En quelque sorte, la légitimation néoclassique du profit, c'était les employeurs prennent des risques. Donc ils sont rémunérés. Mais là, ils prennent de moins en moins de risques, les salariés ont tous les risques, et c'est eux qui ont la variabilité de la rémunération. Oui. Et c'est une révolution conceptuelle qui a été menée de façon de mettre dans la revue du MNF qui s'appelle Risque, où on a posé les riscophoses et les riscophiles. Il y a une révolution conceptuelle qui est arrivée en France dans laquelle les entrepreneurs sont...
En combien d'années, vous diriez?
Je dirais ça date d'une quinzaine d'années, ça chemine
même pas, doucement. Même pas 30 ans. Voilà. Et nous avons intégré, nous, je dis, les salariés... ont intégré cette idée-là, au fond, et presque l'ont accepté. C'est bien ça qui pose question aujourd'hui, Michel Husson.
Mais il y a absolument cette question.
Les jeunes, notamment, regardez comment ils se comportent.
Ça fonctionne par strates, c'est-à-dire que, enfin, à Lyos, on a travaillé un peu avec cette idée de population cible, c'est-à-dire qu'on fait pénétrer, et c'est pour ça que les jeunes sont un vecteur de ces nouveaux contrats, et quand on regarde les structures, disons, de grandes entreprises, ou même de services publics comme la Poste, on voit bien qu'on fait pénétrer à travers les nouvelles recrues des statuts qui sont beaucoup plus flexibles, disons, que le CDI. Et moi, je voudrais inciter, parce que c'est un enjeu d'une discussion qui a lieu actuellement, y compris au niveau des programmes, c'est-à-dire que beaucoup de projets, y compris qui se revendiquent de la sécurité sociale professionnelle, comme le rapport Kay Kramartz, proposent une taxe sur les licenciements, qui paraît une mesure, disons, de quasiment coercitive qui pourrait réguler un peu les choses, mais qui en fait, du point de vue du droit du travail, qui revient à acheter la disparition de tout contrôle sur les licenciements et de tout compte à rendre. Et c'est cet élément qui est toujours présent dans le CNE, c'est-à-dire la possibilité de mettre fin à un contrat, comme le font d'ailleurs beaucoup d'utilisateurs du CNE, sans aucun motif. Et la taxe sur les licenciements revient à acheter ce droit et à revenir à un état de droit du travail assez primitif de ce point de vue-là.
Bernard Gazier.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur ces dangers et ces pressions de la financiarisation, ces remises en cause du droit. Mais quand même, ne sommes pas trop franco-français. C'est le droit romain. Il n'est pas partout. Et il y a donc d'autres arrangements juridiques dans d'autres pays. Et je voudrais souligner une chose, c'est que l'échange sécurité-subordination, qui est, je crois, la marque un peu du droit romain, est quelque chose qui a trouvé des expressions hiérarchiques extrêmement différentes selon les cas. Et il me semble que aujourd'hui, il y a tout un côté sécurisant de la hiérarchie traditionnelle qui a disparu. La très grande firme qui intégrait les gens, les mettait dans des petites cases, etc. Il y a des côtés qui sont dévastateurs pour les plus faibles. Tout n'est pas totalement négatif non plus. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'appel aux initiatives des gens. Et je crois qu'en France, le problème, c'est que on bénéficie depuis tant d'années d'une situation tellement désastreuse, avec ce chômage de masse qui est là depuis si longtemps, que les rapports de force entre patronat et salariés sont tellement en faveur du patronat, que dès lors qu'il n'y a plus l'armature romaine traditionnelle et la hiérarchie, on se sent vulnérable, tout nu, etc. Alors, c'est de fait, mais en même temps, ça n'est pas, si je puis dire, de droit. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui peuvent bouger. Moi, je suis effectivement tout à fait hostile aux propositions de Kay Kramartz lorsqu'elles consistent à dire, voilà, on va débrancher l'entreprise de toute responsabilité. En même temps, il faut voir que le droit romain tel qu'il fonctionne, par exemple aujourd'hui, dans le licenciement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour les très grandes firmes, obligation de reclassement. Qu'est-ce que c'est que l'obligation de reclassement des très grandes firmes? C'est en fait l'obligation de fournir un plan social, qui s'appelle désormais, je sais plus, plan de retour à l'emploi, quelque chose comme ça, non, plan de sauvegarde de l'emploi, voilà. Et ce dispositif consiste à dire, il faut que tout salarié des grandes firmes se voit proposer 3 OVE. Alors, OVE, c'est l'offre valable d'emploi, et 3 OVE, qu'est-ce qui en juge? En fait, oui, c'est l'administration qui va dire, écoutez, votre plan est suffisant, pas suffisant, etc. Et au bout de quelques mois, la responsabilité de l'entreprise a complètement disparu. Ça devient complètement biodégradable, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, derrière l'armature juridique, il y a des effets réels, qui sont pas négligeables, mais ces effets ne rassurent pas les gens. Parce que si on est dans un marché du travail relativement contraint et dans lequel les gens ont des qualifications pas transférables, ce qui malheureusement est très souvent le cas en France, eh ben on s'en sort pas. Tandis que si la grande entreprise faisait des partenariats de formation, faisait responsabiliser ses sous-traitants, et il y a des contrats qui permettent de le faire, et des tas de choses comme ça, ben ce sont des engagements qui ne sont pas de même nature, qui ne relèvent peut-être pas du droit romain, mais à mon avis, c'est une piste qu'il faut explorer.
Oui, car flexibilité n'est pas forcément à rejeter. Hein. Nous avons peut-être une idée un petit peu trop négative ici. Elle permet aussi la fluidité, elle permet de générer des flux plus importants, elle permet aussi de une certaine mobilité, car bien entendu, plus le risque est grand et moins on a envie de quitter son travail. Et donc, c'est aussi une manière d'accentuer les inégalités si le salarié installé s'oppose de plus en plus au salarié précaire. Robert Boyer.
Oui.
C'est un élément de réflexion important en ce moment. Et on parlait des grandes entreprises face à celles des plus petites.
Sur la question du droit, le danger serait quand même, à l'opposition de style qu'a eu Kramas, que se dissolve tout droit du travail dans le cas de la France. Mm-hmm. Or, si les salariés n'ont pas d'autres structures de coordination, comme ils ont dans les régimes corporatifs sociaux-démocrates, alors ils sont dans une situation d'asymétrie de pouvoir tout à fait radicale. Et il est assez logique pour eux que la flexibilité sente le chiffon rouge. Parce que la concession de flexibilité est instantanée, le gain d'emploi, si rien n'est organisé, est potentiel, futur et aléatoire. Et donc c'est ça, à mon avis, qui rend les choses difficiles. Alors peut-être pour aller dans le sens de magasin, même le dépasser, ayons de l'imagination. Moi, je vais vous faire un tour du monde de la flexicurité. Aux États-Unis, il est dans le mandat de la banque centrale d'optimiser l'inflation et le chômage. Et vous avez pourquoi les salariés acceptent? Ah, bien sûr, il y a la tradition américaine de se passer d'un état à l'autre. Mais tout simplement, on sait qu'on ne restera pas trop durablement dans un état de chômage de masse qu'on a vécu en France. Donc, la flexicurité, c'est celle, la macroéconomie, le banquier central et le budget vont me faire que, en gros, l'économie ne va pas rester dans un marasme. Voilà. Deuxième exemple que je voudrais évoquer, c'est dans le cas du Japon. Dans le secteur le plus concurrentiel, eh bien, on réduira la durée du travail, le bonus, etc. Mais le lien sera maintenu. Et dans l'activité de service, on va avoir des contrats très flexibles qui rencontrent des situations professionnelles. Le jeune étudiant qui a besoin de compléments, la mère de famille qui a amené ses enfants à l'école, le retraité qui a un complément de revenu, c'est flexible, mais il y a gain mutuel. Et donc, pour élargir l'imagination, on a donc, et dans le cas de la France, c'est peut-être un peu, on a tellement accusé la rigidité du marché du travail que la flexibilité est apparue comme une panacée, mais sans contrepartie, sans qu'il y ait cet élément qui redéfinit quel est l'intérêt des salariés à s'ajuster. Et c'est ça qui me semble durablement posé à cœur, ne serait-ce que parce que les syndicats n'ont pas été assez forts pour bloquer et proposer des dispositifs leur permettant de dire nous acceptons la flexibilité, mais sous des conditions. C'est cette force professionnelle qui a été absente et qui a bloqué la situation française pendant
longtemps. Autre exemple de flexibilité, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il paraît que les syndicats l'ont plutôt bien accepté, c'est McDonald's qui vient, leur grande entreprise américaine évidemment, qui vient de proposer un contrat de travail familial où à l'intérieur d'une même famille on peut se partager le contrat. Vous n'aviez pas lu ça? C'est assez extraordinaire. Deux employés d'une même famille peuvent se remplacer en cas de besoin. Un enfant malade, c'est l'un qui vient ou c'est l'autre. Et paraît-il, alors évidemment l'objectif de l'entreprise est de réduire l'absentéisme et d'augmenter la motivation du personnel, mais ça semble marcher. On peut aller jusqu'à des expériences aussi extrêmes où seules les très grosses boîtes peuvent se le permettre. Bernard Gassier, je vous vois tous sceptiques sur cette mesure, je vous la prends.
Moi ça me rappelle un tâcheronnage familial, au sens de vous me faites le boulot, mais vous pouvez me substituer entre eux. Donc c'est une innovation qui retourne vers le passé.
Il existe des versions qui sont possibles, c'est certaines versions, malheureusement qu'elles sont aujourd'hui souvent dénaturées, du compte épargne-temps. C'est-à-dire lorsque, par exemple, une grande surface décide d'ouvrir la nuit, bon, jusqu'à 22h, 23h. Elle dit, voilà, paf, il y a nocturne, on vend telle chose. Bon. En général, la grande surface impose ça à ses salariés. Alors, pour certains, c'est absolument dramatique. Ben, s'ils doivent s'occuper de leur famille, de leurs enfants, paf, ça leur tombe dessus, et puis il y a un côté à prendre ou à laisser, ou alors vous partez, etc. Alors, dans un cadre de ce type-là, dire, ok, mais si vous venez, vous avez ensuite droit à prendre 3 jours de congé que vous prendrez quand vous voudrez, c'est vous qui avez le droit, là, il y a des échanges qui peuvent avoir lieu, et qui permettent ce genre de rééquilibrage familial. À ce moment-là, on peut très bien imaginer, monsieur et madame sont caissiers, moi je sais pas, chez Virgin Megastore, et l'une y va et accumule le droit de disponibilité, l'autre n'y va pas, etc. Mais alors là, tout dépend de la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit léonin, il faut que ce soit des vrais droits qui donnent des marges de manœuvre. Et là, tout dépend, je dirais, du taux d'échange. Alors aujourd'hui, on est en train de le détourner parce qu'on dit, vous savez, on peut simplement vous payer plus cher si vous venez. Et donc ça devient finalement une manière de contourner les transferts.
Oui, mais est-ce que ça doit être organisé? Alors si l'on doit aller vers des expériences, comme vous dit Robert Boyer, vers plus d'imagination, est-ce que ça doit être dans le cadre du droit du travail ou est-ce que ça doit être dans le cadre de la négociation et du dialogue social? Car ça aussi, c'est une réussite, vous nous l'avez dit, Robert Boyer, des pays nordiques. Je ne sais pas ce qui se passe en Autriche, mais en tout cas, c'est peut-être le défaut français quand on connaît le taux de syndicalisation.
Moi, je dirais, c'est la valse hésitation permanente. On a eu un exemple tout à fait extraordinaire. Le président de la République dit plus jamais de changement du droit du travail sans qu'il y ait délibération, enfin consultation avec le partenaire. Et immédiatement, pour sortir les restaurateurs de l'embarras et d'un jugement de justice, on veut faire passer une loi. Donc, vous voyez très bien, on est dans une contradiction. Et cette absence de, et ce cynisme complet de basculement, hein, entre tantôt la loi, tantôt les partenaires sociaux, le scandale d'opposition, etc., nous nuit énormément, parce que dans le cas du pays syndical, les rôles où, même en Allemagne, il y a autonomie des tarifs, et donc il y a des règles claires, et on peut bâtir dans la longue période. Alors que, dans le cas du droit français, le changement de majorité ou de circonstance fait basculer de la convention collective à la loi et vice versa. Et ça crée une instabilité où on comprend très bien que les partenaires sociaux n'aient absolument pas confiance dans les accords négociés puisqu'ils sont réversibles et aucun argument théorique ne justifie le basculement permanent. Alors, moi, ce basculement en 15 jours, et personne n'a noté d'ailleurs, j'étais complètement atterré, je m'y attendais, mais pas avec cette grossièreté complète.
Oui. La faiblesse de nos syndicats, et Michel Husson, quand même au cœur de toutes ces questions.
Oui, bien sûr, non, mais et je pense aussi qu'on est dans une période où le compromis est difficile à construire de manière stable. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'idée du MEDEF de refondation sociale avec comme partenaire la CFDT, qui était disposée à chercher de ce côté-là, n'a pas fonctionné. Parce que on est dans une logique où il y a un déplacement constant, des relations sociales. Et je crois que le meilleur exemple, c'est l'Allemagne, qui était ce pays était lui aussi un modèle qui est aujourd'hui profondément entraîné sur une trajectoire de détricotage systématique, où effectivement il y a eu l'unification et où on voit un recul, et d'une certaine manière, les patrons qui ont pris l'offensive en refusant la démarche conventionnelle qui était traditionnelle et en cassant cet accord-là. Et comme c'est quand même un gros pays, comme il y a beaucoup de pays qui sont sur ces trajectoires, d'une certaine manière, les modèles qui peuvent tirer leur épingle du jeu en maintenant des relations sociales, un peu civilisées, sont extrêmement minoritaires dans l'Europe où on se trouve aujourd'hui.
Pour tenter de conclure, de trouver des sorties, donc on est parti de ce modèle danois, il faut bien l'appeler comme ça, même s'ils en sont surpris eux-mêmes. On a parlé en passant de la situation autrichienne, on a donné plusieurs exemples également aux Pays-Bas, de contre-exemples, ou en tout cas présentés comme tels au Royaume-Uni. Vers quoi nous dirigeons-nous, enfin contre-exemples forcément, non, je vous vois hocher la tête, Bernard Gazier.
Comme le Royaume-Uni, il y a eu plusieurs générations de Tony Blair. Lorsqu'il a fait le salaire minimum, il est maintenant quasiment au niveau du salaire minimum français, c'est une chose. Il a créé des emplois publics, un sacré paquet. Donc en fait, c'est assez ambigu. Cette
affaire. Alors justement, parlant d'emploi public, c'était la question que j'allais vous poser à tous. Sécurité, flexibilité, tout dépend aussi du rôle de la protection sociale qui se trouve en face, de l'autre côté de la barrière. Et c'est bien là que le bas peut blesser dans certains cas. Où en sommes-nous en France, selon vous, et vers quoi allons-nous? Est-ce qu'on va pouvoir donner une protection aussi importante que celle que l'on retrouve au Danemark?
Je dirais durablement. Mon sentiment est le suivant. Des nouveaux risques sont apparus, après on a créé l'allocation dépendance, etc. Mais on a eu tendance à accumuler. Et lorsqu'on avait des difficultés à segmenter la formation. Or, ce qu'on aurait besoin, c'est au contraire de recomposer des éléments d'intervention. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que les régimes sont gérés de façon séparée, un financement séparé, des intérêts séparés, alors qu'il faudrait au contraire retrouver des coordinations entre ces interventions. Et c'est ça qui rend si difficile parce qu'en 15 ou 20 ans, face à des gros problèmes qu'on n'avait pas à résoudre par des grandes conférences nationales du style, vous voyez, les accords nationaux qui ont eu lieu aux Pays-Bas, qui ont eu lieu en Espagne, sortie de la guerre, on a resynchronisé la fiscalité, la couverture sociale, le droit du travail par une grande conférence nationale où il y avait beaucoup d'impératifs de sortir l'économie ou la société de grandes difficultés. Nous, on a au contraire, face à la difficulté, on a toujours trouvé des solutions de biais en segmentant les problèmes. C'est tellement segmenté que ça permet à chacun de se retrancher dans chacun des régimes correspondants, puisque l'individuation dans un régime est interprétée comme le début d'un effet de domino dans les autres éléments. Et ça suppose un talent absolument remarquable de réformateur qui ouvre réellement la recomposition. Et ça, je dirais que ça supposerait un patronat qui prendrait au sérieux l'idée de la modernisation, des syndicats qui géreraient un peu un public, à savoir la sécurité des salariés, et des gouvernements innovatifs, et qui, dans certains cas, pourraient d'ailleurs s'opposer à l'opinion. Et ça, on en est relativement loin dans le cas de la France.
Nous verrons l'année prochaine, Michel Husson, selon les programmes proposés.
Non, mais le problème, c'est pas tellement le caractère plus ou moins innovant des acteurs, mais c'est effectivement le rapport de force qu'on peut mesurer d'une certaine manière par le chômage. Et je pense que de ce point de vue-là, la stratégie de l'emploi au niveau européen et pas mal de mesures qu'ils ont prises peuvent être interprétées comme une manière de maintenir cette pression constante sur le marché du travail et qui maintient le rapport de force et qui rend d'une certaine manière impossible la recherche d'un compromis relativement stabilisé. Et toutes les réformes, disons, s'articulent les unes avec les autres. Hein. C'est-à-dire que par exemple, les réformes de la protection sociale visent finalement le même objet que la flexibilisation du travail, c'est-à-dire réduire le coût du travail direct ou indirect, etc. Je voudrais donner juste un exemple de ça. C'est la Suède qui a dont on n'a pas trop parlé, mais qui est un bon élève, qui a rempli déjà les objectifs de la stratégie de Lisbonne, la Commission européenne, dans ses commentaires, lui recommande malgré tout de flexibiliser plus son marché du travail. Donc la flexibilité est une fin en soi qui vise probablement d'autres objectifs que des créations d'emplois.
Alors qu'elle ne devrait être qu'un moyen et sous les conditions que nous avons rappelées. Oui, Bernard Gazier.
Oui, je crois que face à toutes ces exigences de recomposition, on peut mieux comprendre pourquoi certains petits pays quand même s'en tirent mieux, parce que voilà, c'est à taille plus humaine, on peut davantage se parler, quand les gens ne jouent pas le jeu, ça se voit très vite. Il y a quelque chose qui est utile dans le petit pays, c'est ce qu'on appelle parfois l'effet canoë. Hein, dans un canoë, s'il y en a un qui rame pas, ben ça se voit. Tandis que dans une grande galère où on tambourine pour que les esclaves rament, ben on sait très bien qu'il y en a certains qui ne rament pas. Alors, le mieux, ça serait d'avoir des canoës, à mon avis, pas des galères avec des esclaves. Mais tout ça pour dire que moi, je crois quand même pas mal au rôle des régions. Alors, il y a un désenchantement aujourd'hui en France très fort vis-à-vis des régions. Tout le monde se fâche sur les transferts de fiscalité. Les Français sont furieux. On a l'impression qu'on est en train de leur prendre leur porte-monnaie. Hein. Mais les régions sont en train de prendre un certain pouvoir. Et par exemple, elles s'occupent davantage de formation. Et ensuite, elles s'opposent à certains licenciements lorsqu'elles ont subventionné les entreprises. Ça, c'est défensif. Mais pour être offensif, il faut d'une part faire ça, et de l'autre, dire, écoutez, on a des formations efficaces, faites des partenariats, à ce moment-là, le deal, ça sera, vous pourrez rester, mais dans une économie prospère et dynamique. Il me semble qu'on se dirige un peu vers ça.
Bien, avec de nouveaux enjeux, Robert Boyer, je vous ai un petit peu interrompu tout à l'heure, qui pointe leur nez notamment au Danemark, qui sont le choc démographique auquel nous attendons tous, le vieillissement, mais pas forcément dangereux et négatif. On commence à avoir des observateurs en Allemagne qui disent, au fond, est-ce que c'est si grave d'avoir une population vieillissante? Ça peut libérer des emplois, c'est encore un autre sujet. Et puis, la question de l'immigration, vous dites d'un mot très court ce que vous vouliez nous dire sur
le Danemark, nous sommes tous concernés. L'un des catalyseurs du modèle danois, c'est quand même une vision communautariste, y compris de l'éducation. Et c'est vrai que l'arrivée de nouvelle génération d'immigrants a déstabilisé le système, au point que les taux d'emploi sont beaucoup plus faibles dans ces populations, d'où une double tentation, celle d'abord des mouvements d'extrême droite, et certains sont un de ces partis est au pouvoir, et le deuxième, ça a été de déconnecter la couverture sociale des immigrants par rapport à ceux des Danois de natifs. Et là, c'est assez intéressant parce que ça décompose le modèle, on crée une nouvelle segmentation. Donc on voit bien que ce modèle avait une origine bien particulière et il n'est pas aussi universel qu'on le pense. L'autre élément, c'est...
Si vous avez le temps.
C'est bien sûr de la fiscalité. Le taux le plus élevé sur le revenu est très élevé. Et si les Danois se mettent à comparer leurs opportunités dans l'Europe, certains d'entre eux vont finir en Angleterre. Et donc il y a aussi croire à la qualité de service public pour être sûr qu'on est prêt à payer très cher par sa fiscalité la qualité de ses services. Il y a une nouvelle génération qui disent je préfère aller en Angleterre et je me débrouillerai moi-même sur le marché privé de la santé ou de l'éducation.
Voilà, on ne peut pas s'en réjouir, mais le Danemark aussi à ces difficultés. Merci à tous les trois pour vos analyses. Je renvoie à vos ouvrages respectifs sous la direction de Michel Husson. Travail flexible, salarié jetable, c'est dit. Fausses questions et vrais enjeux de la lutte contre le chômage, c'est paru à La Découverte. Robert Boyer a signé la flexicurité danoise, donc quels enseignements pour la France, aux petites éditions de la Rue d'Ulm, petite mais précieuse de l'ENS, l'École Normale Supérieure. Et Bernard Gazier avec Peter Hauer, donc l'Autrichien Peter Hauer, signe chez Flammarion, l'introuvable sécurité de l'emploi. Tous ces titres, Yael Mandelbaum les a bien sûr rassemblés sur notre site franceculture.com, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est évidemment un sujet inépuisable.